La carte blanche, Africa Radio.
Et notre invité carte blanche ce soir est Sadio Morel Kanté. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, analyste politique et chercheur associé à l'IPSE. C'est l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, ici à Paris. Premier sujet de ce soir, c'est la fin de l'opération Barkhane annoncée par le président Emmanuel Macron.
Oui, cette opération a eu beaucoup moins de succès sur le terrain, notamment au Mali, où les voix se sont élevées et demandent le départ des forces armées françaises. Alors, je crois que Macron a bien saisi l'occasion de ce deuxième coup qu'il a appelé deuxième coup d'État pour mettre fin à cette opération et l'élargir à une opération beaucoup plus internationalisée d'implication des partenaires qui étaient annoncés, mais qui avaient du mal à rassembler, qui ont eu du mal à rassembler les 420 milliards demandés par Barkhane, par le G5 Sahel, pardon, pour mener à bien cet effectif. Plusieurs niveaux, Emmanuel Macron, la France gagne à retirer ses frais, ses troupes et à l'élargir comme ça. Les frais seront partagés au lieu que la France dépense à chaque fois le million d'euros par soldat.
Est-ce qu'on peut parier sur l'investissement des autres pays européens qui jusqu'ici n'ont pas montré beaucoup d'intérêt et n'ont pas été sur le plan financier très investis?
Non, c'est pas, on peut pas compter sur ça, mais je crois que c'est une façon en douceur pour Macron de se retirer, hein, parce que ça lui coûte cher et il n'a pas beaucoup de succès dans cette opération.
Il commence aussi à être impopulaire en France.
Non, l'opération est surtout impopulaire au sein des populations qui ne voient pas de résultats, parce que le problème, en dehors du renseignement, de partage de renseignements, le problème était aussi de prendre en compte les aspects, la gestion socio-économique de la situation d'après-effondrement partiel du Mali. Donc cela n'a pas été pris en compte et les jeunes en quête d'emploi se sont réfugiés au bras de ceux qui les recrutent, c'est-à-dire les djihadistes, et autant de morts que du côté français, que africain, que sahélien, ont causé des doutes de l'efficacité de l'opération. Donc, ça fait que Macron s'en sort bien, hein, sous le prétexte de ce deuxième coup d'État.
Deuxième sujet, c'est le retour jeudi 17 juin de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Comment voyez-vous son futur rôle au niveau de la classe politique ou de la scène politique ivoirienne?
Alors, ou par rapport au coup au coup qu'il a reçu, il va se poster en sage, ou encore les partisans, sous la pression de ses partisans, il va continuer à faire la politique. Mais là, je pense qu'il lui sera encore brandi le fait qu'il est condamné à 20 ans par coutumasse, et ça pourra réactiver une action judiciaire contre lui s'il se montre trop sur la scène politique, à son propre compte. Ouais.
Donc vous pensez que le fait pour les autorités ivoiriennes de maintenir cette condamnation à 20 ans de prison peut être utile au cas où Laurent Gbagbo s'engagerait en politique?
Oui, tout à fait, parce que c'est quelqu'un qui est très populaire, hein, et ça, il n'y a rien à dire. Tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique, beaucoup d'Africains, les panafricanistes surtout, leur homme, c'est Gbagbo. Et voilà, la Côte d'Ivoire a bien fait de le prendre chez lui.
Sur quel terrain souhaiteriez-vous voir Laurent Gbagbo très actif? Est-ce sur le terrain politique ou sur celui de la réconciliation nationale?
Oui, mais c'est un réconciliateur déjà, hein. Ça, il jouera ce rôle. Mais comme je l'ai dit tantôt, ça dépendra de ce que veulent ses partisans aussi. S'ils veulent qu'ils soient actifs sur le terrain, beaucoup d'Ivoiriens le demandent. Et là, ça va faire intervenir la condamnation par contumace. Ça, c'est, voilà, je le vois comme ça.
Dernier sujet, le vaccin anti-Covid et les Africains qui souhaitent en avoir, mais en même temps, sur le terrain, il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme, il n'y a pas beaucoup de candidats au niveau du continent africain pour ces vaccins.
Oui, on a vu des pays sahéliens, par exemple la RDC qui a dû détruire des lots faute de preneurs. Mais en dehors de ça, ce qu'il faut, ce que moi je veux pointer du doigt, c'est le fait que ces Africains demandent aux Occidentaux, Macron et bien leur porte-voix, d'avoir des surplus de vaccins des Occidentaux. Alors, que font les dirigeants africains de leurs chercheurs? Pourquoi ne financent-ils pas les recherches au lieu de tendre permanemment, perpétuellement, tout le temps la main pour recevoir des autres? Et puis, quand il s'agit de politique, ils vont dire ingérence politique, mais il n'y aura pas là d'ingérence vaccinale, il n'y a pas d'ingérence économique. Et donc, que les Africains sachent ce qu'ils veulent.
Sadio Morel Kanté, merci beaucoup.
Merci.
Journaliste, analyste politique et chercheur associé à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Où en est-on dans la dispute sur les îles Chagos? 2 ans après une décision historique des Nations Unies, en mai 2019, on se rappelle, l'Assemblée générale de l'ONU avait validé l'avis de la CIG, la Cour internationale de justice, et voté une résolution sommant le Royaume-Uni de rétrocéder le contrôle de ces îles à Maurice avant le 22 novembre 2019. On va faire le point dans cette émission ce soir avec deux invités. Il s'agit de Olivier Bancoult, président du groupe réfugiés des Chagos. Vous êtes à Port-Louis, Monsieur Bancoult. Bonsoir.
Bonsoir, madame. Merci. Je suis bien à Port-Louis.
Oui.
Et je suis le président du groupe Réfugiés des Chagos.
D'accord. Port-Louis, en Île-Maurice, évidemment. Merci beaucoup d'être avec nous. Et avec moi en studio, Caroline Laurent, écrivaine franco-mauricienne, auteure de Rivage et de la colère. Madame Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
Et je rappelle que votre ouvrage parle un peu de la souffrance du peuple chagossien, Rivage de la colère, qui a été primé, prix Maison de la Presse 2020 et prix du roman Métis des lecteurs et des lycéens, publié en grand format aux éditions Les Escales, puis repris en poche aux éditions Pocket. Et je voudrais signaler aux auditeurs que nous avons tenté d'avoir des officiels du gouvernement mauricien, notamment de la primature et du ministère des Affaires étrangères, qui n'ont pas souhaité prendre part à cette émission. Et au cours de cette émission, nous allons notamment tenter de comprendre cette crise des îles Chagos. Et je voudrais commencer avec vous, M. Bancoult, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Quand on parle du territoire des îles Chagos, de quoi s'agit-il exactement?
Bon, l'archipel Chagos constitue de 65 îles, avec l'île principale d'Ivo Garcia, là où on a une base militaire américaine, après avoir expulsé des Chagossiens de Ivo Garcia, Péros Banos et Salomon. Et je peux vous dire que moi-même, je suis natif des Péros Banos, un des îles qui font partie de l'archipel Chagos.
Et on parle de près de 2000 Chagossiens qui avaient été expulsés.
Normalement, on était à 3000 Chagossiens de 3 îles différentes, Diego Garcia, Péros Banos et Salomon, qui ont été expulsés de notre terre natale.
Et justement, je demandais de quel territoire parle-t-on quand on évoque les îles Chagos en termes de superficie, en termes de position géographique? Qu'est-ce que cela représente?
Ben écoute, normalement c'est pas grand, mais je peux vous dire que Diego Garcia, c'est plus que 64 kilomètres carrés, et en même temps il y a Péros Banos. J'ai pas le chiffre exact, mais je peux vous dire que si la Grande-Bretagne, si les États-Unis a construit une base militaire américaine, ça prouve qu'il y a assez de place. Laisse-moi vous dire que seulement un tiers du Diego Garcia qui est occupé par la base militaire américaine et des tiers restent inoccupés.
D'accord. Diego Garcia, c'est là où est construite justement la base américaine à la faveur des négociations avec le Royaume-Uni. Madame Laurent, comment le Royaume-Uni justement a-t-il pris le contrôle de ce territoire ? Aujourd'hui disputé avec l'île Maurice.
C'est un héritage de la colonisation britannique à l'île Maurice, puisque donc l'archipel des Chagos était rattaché à Maurice et que Maurice a obtenu son indépendance en 1968 au terme effectivement de tractations longues et complexes. Et au moment où s'est tenue la conférence de Lancaster Gate en 1965 à Londres, le premier ministre de l'époque britannique Harold Wilson a reçu Ram Ghulam, qui allait devenir le premier ministre de la République mauricienne.
La République indépendante.
Voilà, de la République indépendante. Et a mis dans la balance, en fait, cet ultimatum de l'archipel des Chagos. En gros, c'est Maurice pouvait devenir indépendante à condition que les Anglais gardent dans leur escarcelle l'archipel des Chagos. Et pourquoi ? Parce que effectivement, le territoire est extrêmement bien placé, stratégique, en plein cœur de l'océan Indien, à portée de missiles des côtes africaines, de l'Asie, du Proche et Moyen-Orient, et qu'on était en pleine guerre froide. Donc cet archipel représentait un intérêt géostratégique très important. Et finalement, au cours de cet ultimatum, de ces tractations qui ne laissaient pas beaucoup de choix aux Mauriciens, malheureusement, les Chagos ont été détachés de l'île Maurice.
À l'indépendance.
À l'indépendance.
Mais il y a aussi une question financière, parce que dans l'argumentaire des Royaumes-Unis, ils affirment avoir payé 3 millions de livres au gouvernement mauricien de l'époque pour aider les Chagossiens à se réinstaller, ou en échange justement de l'occupation des îles Chagos.
Ouais, tout à fait, et ça Olivier Bancou va nous en parler, mais malheureusement la population chagossienne n'a jamais vu la couleur de cet argent.
D'accord. Monsieur Bancoult.
Oui, absolument. On entend toujours parler de ces fameux 3 millions de livres sterling que nous, en tant que natifs, en tant que peuple qui a été déraciné, on n'a jamais vu la couleur de cet argent. Mais comme je vous dis, ils prétendent que pendant la discussion à Lancaster House, il y avait le chiffre de 3 millions de livres sterling qui a été voté et décidé comme si pour réaménager, réhabiliter la population chagossienne à l'île Maurice, mais rien n'a été fait.
Et beaucoup se sont retrouvés à être logés dans des bidonvilles.
Absolument, absolument.
Par leurs propres moyens.
Il n'y avait aucun plan de relogement pour les Chagossiens. Pourtant, au départ, le jour où on a réuni tous les Chagossiens devant la maison de l'administrateur à Diego Garcia pour leur annoncer qu'il faut quitter Diego Garcia afin de laisser la place à la base militaire et qu'ils devront choisir entre Maurice et Seychelles. Et ils se sont promis que à Maurice, ils auront toute une vie comme c'est fait le cas pour les Chagos, avec des maisons, du travail, tout ça. Mais malheureusement, franchement, c'est une fausse promesse qui n'a jamais été réalisée.
Mais avant, pour revenir un peu à l'expulsion, mais M. Bancoult, elle a été faite de manière brutale. Certains sont partis avec l'espoir de revenir, mais on ne les a jamais autorisés à venir. Le Royaume-Uni a d'ailleurs reconnu le traitement qui a été très brutal à l'égard des Chagossiens.
Absolument, absolument. La façon dont on a été expulsé, déraciné de notre terre, c'est vraiment une tribu. C'est une autre.
Pouvez-vous nous dire un peu avec des illustrations, vous par exemple, ou vos proches, comment ont-ils été expulsés de ces îles?
Ma propre famille, nous, parce qu'il y avait cette guerre entre l'île Maurice et les Chagos, parce que tous les ravitaillements sortaient de l'île Maurice pour ravitailler les Chagos. Le moment où ma petite sœur a eu le pied fracturé avec une roue de sarotte, et que l'infirmier à Perros-Banos a conseillé à ma maman d'aller à Maurice pour se faire soigner, et pour soigner ma petite sœur. Et la famille a décidé d'aller, et dans le but d'avoir le traitement pour ma petite sœur. Mais malheureusement, 3 mois après, ma petite sœur est morte. Et quand nos parents ont décidé de retourner, c'est là qu'on a appris que ce sera impossible pour nous de retourner parce que l'île a été donnée aux Américains pour la base militaire.
Et c'est ça. C'est-à-dire sans consulter les populations chagossiennes qui étaient sur place.
Il n'a jamais consulté. Tout ça a été fait sur les deux des Chagossiens sans même consultation. C'est ça le plus grand. Et en plus, laisse-moi vous dire que la façon dont il traitait les Chagossiens, en commençant en tuant des chiens, gazer des chiens, des Chagossiens. Vous êtes Mauricien, vous êtes Français, vous êtes Britannique, si vous avez un chien de domestique, c'est l'amitié que vous avez pour ce chien. Mais nous, ils ont traité notre chien, ils ont gazé notre chien afin de nous décourager à continuer de vivre chez notre terre natale.
Merci.
C'est ça la façon. Et en même temps, avec tous les documents qui ont été déclassifiés au niveau du public record office, a été franchement une fiction. Il voulait comme si inventer que nous sommes des gens, nous sommes des gens qui ne sont pas permanents sur notre terre. On était des travailleurs contractuels. On a même nous déclaré comme Tarzan et Jean du Vendredi. C'est comme si c'était une humiliation, vous voyez. Et c'est un pays que prétend. Tout ça parce que nous sommes des descendants africains. Si vous prenez le cas où il y a des territoires britanniques dépendants, vous allez voir que ces gens-là, ils ont la peau blanche, ils ont les yeux bleus, ils ont le meilleur traitement. Mais nous, ayant sortant des origines africaines, on a été comme si...
Justement, c'était l'autre préoccupation, M. Bankult. Qui sont les Chagossiens et d'où viennent-ils? Comment se sont-ils retrouvés sur ce territoire que se disputent le Royaume-Uni et l'île Maurice?
Ben, écoutez, les Chagossiens, ce sont des gens descendants d'esclaves. Ils se sont venus avec leur maître pour travailler dans l'industrie du poids à Diego Garcia Pérez. Non, c'est Salomon. Et c'est par là qu'a commencé cette population. C'est venant des gens de Mozambique, de Madagascar et des pays d'Afrique qui ont suivi leur maître pour aller travailler dans l'industrie du poids. C'est comme ça. Et nous sommes majoritaires d'origine africaine. Plus tard, on a aussi des gens venant de Pondichéry, qui se sont ralliés ensemble avec nous. Et c'est là que, mais majoritairement, ce sont des gens d'origine africaine qui vivaient au Chagos.
Merci, M. Bankult. Alors, Mme Laurent, je voudrais qu'on parle un peu encore de cette expulsion, ou peut-être même du traitement même des Chagossiens. Au départ, les Britanniques ont presque failli faire croire qu'il n'y avait pas d'habitants sur les îles Chagos, ce qui n'était pas naturellement exact. Et M. Bankult parlait tout à l'heure du traitement, de la façon dont ils ont été expulsés. Dans votre livre, vous évoquez le fait qu'il y avait des chiens, des Britanniques qui avaient droit à des tombes, oui, en bonne et due forme, mais pas les Chagossiens. C'est assez cruel ce que vous décrivez.
L'histoire de cet archipel, c'est vraiment une histoire de la violence, c'est une histoire du mépris occidental, c'est une histoire aussi du double déracinement. Olivier Bankult le disait, la population chagossienne est d'abord descendante d'esclaves. Donc ils ont été arrachés une première fois à cette terre et puis après s'être installés, après avoir mis en place une vie paisible, harmonieuse, ils ont été de nouveau arrachés à la fin des années 60, au début des années 70. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une orchestration en fait de la déportation des Chagossiens qui s'est passée schématiquement en trois temps. Comme Olivier le racontait, il y a eu les Chagossiens qui sont partis à l'île Maurice pour X raisons et qui n'ont pas pu rentrer chez eux parce que sur le port, on leur disait qu'il n'y avait plus de bateaux et que leur île était vendue, donc il n'y aurait plus jamais accès à leur territoire, à leur terre natale. Il y a eu une période d'embargo. Les fameux bateaux de ravitaillement qui devaient arriver de Maurice pour alimenter l'île, apporter les denrées qui n'existaient pas sur place, ont été arrêtés. Donc une forme de citadelle, de siège un peu. Et le dernier temps extrêmement brutal.
Avec pour objectif de pousser les populations à n'avoir aucune autre issue, oui, que de partir.
Totalement, c'est extrêmement cynique de la part des Britanniques. Face à une population qui n'avait rien pour se défendre, du reste, parce que ni armes, et puis voilà, une population qui était pacifique en plus, donc c'était encore plus détestable, je trouve, de s'en prendre ainsi à des gens qui n'avaient pas les moyens de se défendre. Et le dernier temps, avec cette scène extrêmement violente et pour moi révoltante, c'est le moment où les Chagossiens sont convoqués sur la plage par les autorités britanniques, qu'on leur donne une heure pour faire leur
tout emballer
valise
et être embarqué
valise,
dans un bateau.
C'est ça, parce que valise, il n'y a même pas de valise. Donc on jette des affaires dans des draps, on noue les draps entre eux. Et puis les bêtes, les chiens, effectivement, sont gazés. Et ça rappelle quand même les heures les plus sombres de notre histoire. Hein. C'est de l'intimidation, c'est de la brutalité. Et puis les gens sont jetés dans les cales des bateaux. Et là aussi, ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Et puis après, vomi sur les quais de Port-Louis, sans rien.
Sans aucun soutien pour leur réinstallation.
Sans soutien et sans accueil même de la population mauricienne qui à l'époque soit ne savait pas ce qui se passait, soit était indifférente. Et donc les Chagossiens ont dû tout faire eux-mêmes pour essayer de s'en sortir.
Merci beaucoup. Et dans la seconde partie de ce débat, nous allons voir comment les Chagossiens, face à cette injustice que vous avez décrite dans cette première partie, ont décidé de s'organiser. Ils ont eu raison, mais le plus dur, c'est de pouvoir faire respecter cette décision de la CIJ. On en parle dans un instant.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et dans votre émission ce soir, c'est une émission format décryptage en quelque sorte sur le litige qui oppose le Royaume-Uni et l'île Maurice à propos des îles Chagos. Et nous en parlons avec deux invités, Caroline Laurent, écrivaine franco-mauricienne, auteure de Rivage de la colère qui décrit justement cette souffrance du peuple chagossien, et Olivier Bancoult, président du groupe Réfugiés des Chagos à Port-Louis, en Île-Maurice. Et je vais revenir à vous, M. Bancoult. Avant peut-être de parler de cette affaire portée devant la justice, je voudrais que vous me disiez en quelques mots, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui plus chagossien, plus mauricien? Aujourd'hui, c'est quoi l'identité des chagossiens?
Ben écoute, normalement, moi, je suis né à Péros-Banos, dans l'Ouest de Chagos. Bien sûr, c'est mon identité, je suis né là-bas. Mais je vécis pendant 53 ans à l'île Maurice. Je suis détenteur de la nationalité mauricienne. Et je suis électricien. Je suis militant des droits et des droits humains. Et je suis détenteur aussi d'un passeport britannique. Mais le passeport, je n'ai pas eu comme ça. En tombant du ciel, c'est avec l'action que j'ai entamée auprès des autorités britanniques pour demander que la décision de m'expulser chez ma terre natale, s'il était légal ou illégal. Et en 2000, le 3 novembre 2000, la Cour a jugé en ma faveur pour me dire, que je suis quelqu'un qui appartenait à cette terre parce que j'ai vécu pendant plus que 5 générations. Ma famille et moi, nous avons vécu pendant plus que 5 générations. Et je peux
Mais aujourd'hui, vous vous sentez, en termes d'appartenance, de sentiment d'appartenance, comment ça se passe? Je dis parce qu'il y a beaucoup de déchirures dans votre histoire, entre vous qui êtes né aux îles Chagos, vécu un moment à l'île Maurice, puis à la Grande-Bretagne qui administrait le territoire où vous êtes né. On se sent quoi aujourd'hui finalement, plus quoi aujourd'hui quand on est chagossien?
Principalement, je suis chagossien, parce que nous, on est fiers d'être chagossiens, parce que le fait que la lutte qu'on a menée, et surtout avec le courage des femmes que je salue en passant, parce que c'est par eux qu'a commencé cette lutte, avec Sarah Alexis, Lisette Talade, et c'est par eux, et moi, avant d'être mauricien, avant d'être britannique, je suis sagouchien et fils du sol, et je me considère sagouchien, et je suis né sur la Cipelle Sagos, et comme vous le savez, tout être humain a un document très important qui s'appelle Acte de naissance, qui écrit clairement le lieu où vous êtes né, votre date de naissance et votre nom. Et pour nous, c'est clair et net que nous sommes nés sur la Cipelle Sagos qui est écrit sur notre document officiel.
Merci. Caroline Laurent, quel est le regard que les Mauriciens, puisque vous êtes franco-mauricienne, vous n'êtes pas chagossienne, portent sur cette population?
Alors, c'est assez contrasté. Moi, donc, c'est ma maman qui est mauricienne et qui m'a raconté cette histoire des Chagos, où elle a pu vivre d'ailleurs avec sa propre famille au début des années 60. Et ce qu'elle m'a toujours dit, c'est qu'au moment du référendum sur l'indépendance, la question des Chagos n'a jamais, jamais été abordée. C'est-à-dire que les Mauriciens qui se sont prononcés sur cette fameuse indépendance, n'étaient pas au courant que la contrepartie visait cet archipel et donc ce fameux détachement de l'île Maurice. Donc en fait, il y avait un voile qui était posé sur cette histoire, c'était une histoire sous cloche, et elle n'a découvert...
Parce qu'elle gênait, elle embarrassait?
Ah ben ça certainement, elle embarrassait absolument et les Britanniques d'un côté et le nouveau gouvernement mauricien de l'autre. Je pense qu'il n'y avait pas de quoi être fier non plus, effectivement, d'avoir déporté une population et que tout ça a été glissé sous le tapis. Et il a fallu des années pour que, quand même, l'histoire, en fait, émerge. Et ma mère a été au courant de ce drame en 1975. C'est en 1975, et de mémoire, c'est par un article qui était sorti dans le Washington Post, donc même pas dans la presse locale, qu'elle a appris ce qui s'était passé. Donc là, elle a eu un profond sentiment de révolte, beaucoup, beaucoup d'empathie, de compassion pour le peuple chagossien. Mais Olivier nous en parlera sans doute. Je pense qu'il y a eu de longues années où les Mauriciens, quand même, avaient une forme de mépris pour les chagossiens qui, mécaniquement, avaient moins accès à l'éducation, au savoir, au poste, on va dire à responsabilité.
Parce que sans ressources et pauvres, ils étaient voilà. pour la plupart confinés à des tâches dites ingrates.
Tout à fait.
Femmes de ménage,
des tâches
gardiens,
dont ne voulaient pas les autres, en fait.
Que ne voulaient pas les Mauriciens, vous voulez dire ?
Oui, puis c'est une histoire du classement social aussi. Évidemment, si on...
Parce qu'ils étaient aussi peut-être noirs.
Et puis, il y a sans doute un mépris lié à la couleur de peau, parce que malgré ce rêve un petit peu de la nation arc-en-ciel à l'île Maurice, qui recouvre une forme de réalité, il y a quand même toujours une hiérarchie très marquée entre les gens qui ont la peau très foncée, moins foncée, un peu foncée. C'est une déclinaison aussi du métissage, hein, cette île. Et en fonction, bien sûr, on est plus ou moins considéré. Ça, je crois.
Monsieur Bancoul, vous confirmez ? Jusqu'aujourd'hui.
Oui, je confirme tout ce que dit Caroline.
Il y a un problème noir à l'île Maurice.
En arrivant à Maurice, beaucoup de gens, des Mauriciens, ne savaient pas cette caverne chagossienne. Et ils croyaient que nous sommes venus pour le progrès. Mais ce n'est pas le cas. Parce que nous, on a été expulsés. Le moment où on a commencé les batailles, c'est à partir de là, quand on a posé de la fer en cour de l'Angleterre, c'est à ce moment-là qu'ils ont découvert cette vraie cruauté qu'a fait les Anglais avec la complicité des politiciens mauriciens à l'époque.
D'accord.
Qui ont décidé chien de dos sans même le consulter.
Mais aujourd'hui, comment se passe l'intégration des chagossiens au niveau de la société mauricienne ? Est-ce qu'il y a un problème chagossien ou un problème noir en île Maurice ?
Oui, il existe encore, mais c'était pire avant. Parce que les gens, les Mauriciens, ne savent pas le vrai problème des chagossiens qui a été expulsé. Ils croyaient que nous sommes venus en plein... par notre propre gré, et c'est pas le cas. Et nous, on a essayé, par notre lutte, de pouvoir rentrer. C'est pour cette raison que notre première revendication était que nous voulons retourner à Dibougarce, parce qu'on ne se sentait pas mieux à Maurice, parce que c'est vraiment difficile à s'adapter, et c'est pour cette raison que nous réclamons le droit. Mais fier à mesure, avec les arguments, l'affaire en cours qu'on a prôté, et c'est par là que le Maurice a commencé à réagir qu'il y avait un crime contre l'humanité qui a été fait envers les Chagossiens.
D'accord. Parlons de cette démarche entreprise au niveau de la justice internationale, la CIG vous donne raison et demande à la Grande-Bretagne de rétrocéder les îles Chagos à l'île Maurice. Et ça fait 2 ans aujourd'hui, rien n'a changé.
Ben écoute, je peux vous dire, pour nous-mêmes, en tant qu'individus, on ne peut pas aller devant la Cour internationale de justice. C'est par l'intermédiaire de l'île Maurice qui a porté l'affaire devant les instances des Nations Unies, d'abord devant l'Assemblée générale des Nations Unies, et puis qui a référé l'affaire à la Cour internationale de justice internationale. Et c'est par là qu'on a eu l'occasion de témoigner notre souffrance, cette calvaire qu'on a connue, la façon de faire des autorités britanniques envers nos frères et sœurs chagossiens. C'est par là que la Cour a décidé. Et malgré, comme vous le disiez, 2 ans d'ici là, la résolution a été votée le 22 mai 2019. La Grande-Bretagne occupe toujours illégalement les Chagos et bafouer les droits des Chagossiens de retourner chez eux. Et c'est pour cette raison que là, nous faisons face à un pandémie du COVID-19.
Mais lors de cette audience, M. Bancoul, la Grande-Bretagne a fait valoir qu'il y avait un enjeu important de sécurité pour cette île-là et qu'il ne pouvait pas partir de cette île sans menacer la sécurité internationale.
Ben écoute, nous, on n'est pas contre la sécurité. Nous, la question qu'on se pose, comment se fait-il qu'il y ait la cohabitation entre des gens qui travaillent chez Diego Garcia, comme les Philippines, les Singapouriens, les Sri Lankais? S'il y a la cohabitation pour ces gens-là, pourquoi pas pour, au fils du sol, au sein du ciel? Vous voyez, c'est ça l'argument, et nous ne sommes pas contre. Ils prétextent toujours contre la sécurité, le piratage et les terroristes. Ben écoute, nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes nés, tout le monde, d'après la loi universelle des droits de l'homme, qui dit clairement que nul ne peut empêcher d'entrer dans son propre pays. C'est ce que nous réclamons. Nous avons le droit, en tant qu'un peuple, de pouvoir vivre sur notre terre. On pourra comprendre si l'île a été inhabitée, que personne n'a le droit, mais on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens perdus vivre sur notre terre. Il y a des Anglais, des Américains, des Philippines, des Sri Lankais, des Singapouriens. Et après Cosmanos et Salomon, on a des yachts qui viennent visiter, passer plus que 6 mois dans leurs yachts, rester des Canadiens, des Américains, des Australiens qui peuvent venir vivre 6 mois et faire le barbecue sur la plage. Et nous, en tant que fils du sol, on ne peut pas. On a surtout, ce qui est plus grave, on a nos parents qui se sont enterrés dans des cimetières. À Péros-Banos, à Diego Garcia et à Salomon. On a le droit d'aller fleurir le tombe.
Merci.
Et les Anglais ont dit qu'il faut promouvoir la culture. Mais en ce qui s'agit de notre culture, à nous, et comme dirait Caroline Laurent, comment vous pouvez accepter qu'il y a des tombes pour les chiens militaires qui sont bien entretenus à Diego Garcia, et nous, là où se sont enterrés nos parents, sont dans un état à l'abandon.
Merci, Monsieur Banco. On va marquer une pause et on se retrouve pour conclure notre débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons dans votre émission ce soir de l'avenir des îles Chagos. 2 ans après l'avis de la Cour internationale de justice donnant raison à l'île Maurice sur cette île qui l'oppose au Royaume-Uni. Et nous en parlons avec Caroline Laurent, écrivaine franco-mauricienne, et Olivier Bancoult, président du groupe réfugié des Chagos à Port-Louis en île Maurice. Madame Laurent, on est donc finalement aujourd'hui face à un blocage. Il y a cette position des Nations Unies très claire et qui demande au Royaume-Uni de retrocéder les îles Chagos à l'île Maurice. Rien ne s'est passé depuis 2 ans. Finalement, quelle autre issue ont les populations chagossiennes qui tiennent absolument à retourner sur leur terre?
Il faut continuer le combat juridique parce qu'on est face à une espèce d'impasse totalement absurde où effectivement la Cour internationale de justice se positionne contre la Grande-Bretagne et où la Grande-Bretagne décide de faire fi de cet avis, quand bien même il n'est que consultatif. C'est comme si on avait affaire à une justice mondiale à 2 vitesses. Lorsque les lois arrangent les puissances occidentales, tout va bien, mais lorsqu'elles vont contre leurs intérêts, elles décident de ne pas respecter cette loi, et je trouve que d'un point de vue démocratique, ça pose de vraies grandes questions. Donc, évidemment, il faut continuer ce combat. On pourrait d'ailleurs aller plus loin en faisant reconnaître, par exemple, la déportation des Chagossiens comme crime contre l'humanité. Ça, ce serait
envisageable de faire le gouvernement mauricien.
C'est une piste, en tout cas, qui mérite vraiment d'être considérée parce qu'elle permettrait de franchir un cap. Moi, je crois par ailleurs beaucoup aussi au niveau du monde britannique, à la force de l'opinion publique. Parce que pour que le gouvernement bouge enfin sur ce sujet, il faut qu'il y ait une forme de mise en accusation de sa politique passée et de sa politique contemporaine. Et tant que ça ne vient pas aussi de la base électorale et, on va dire, du peuple, cette fois-ci, à prendre dans un sens vraiment
noble...
Mais
est-ce que vous pensez que le gouvernement, pour lui, est aussi déterminé que le peuple chagossien pour aller jusqu'au bout de cette décision, c'est-à-dire, et la faire respecter par la Grande-Bretagne?
Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a énormément d'intérêts, je pense, peu nobles dans cette histoire, des intérêts économiques, des intérêts évidemment géopolitiques, géostratégiques. C'est ce que expliquait Olivier Bancou tout à l'heure. À partir de on va dire du 11 septembre avec la guerre antiterroriste, la base militaire de Diego Garcia est devenue un nouveau bastion anti-djihadiste, etc. Donc il y a toujours en fait quelque chose de nouveau qui s'ajoute pour contrecarrer la demande des Chagossiens. Mais il y a un moment où tout simplement il faudra faire respecter le droit et la loi.
Parce que le Royaume-Uni fait valoir qu'un retour des habitants pourrait menacer la sécurité de la base et augmenter les risques d'infiltration terroriste.
Ce qui me paraît effectivement totalement inepte et scandaleux. C'est une manière comme une autre pour eux de repousser le retour sur leur terre des Chagossiens. Mais la réalité, c'est que cette base, elle est extrêmement précieuse pour l'Occident. Et donc, il s'accroche à ce qu'on pourrait appeler le Guantanamo de l'océan Indien. Quoi. C'est un peu ça aussi.
Mais vous, Madame Laurent, en quelques mots, quelle est la position de la communauté internationale aujourd'hui? Est-ce qu'elle en fait vraiment une priorité, cette crise des Chagos, ce litige des Chagos?
À quel moment on pourrait considérer que la communauté en ferait une priorité? On ne peut pas considérer que tant que les Britanniques en fait, n'appliquent pas la loi, la communauté internationale en fait une priorité. Il faut que ça vienne du principal responsable. Et on parle beaucoup du Royaume-Uni, mais n'oublions pas que les États-Unis sont derrière. Et donc les États-Unis, alors jusqu'ici en plus avec Donald Trump au pouvoir, je pense que les choses étaient assez complexes, mais les États-Unis ne voient que leurs intérêts. America first. Et donc, pour l'instant, avec les Anglais derrière, j'ai l'impression que non, ce n'est pas une priorité pour eux, malheureusement.
Merci. Alors, Monsieur Bankoult, vous espérez toujours retourner sur vos terres. Finalement, quel est l'avenir face à l'attitude de Londres?
Écoute, nous insistons que le droit doit être respecté, parce que, comme je vous l'ai dit, il était clairement décidé par le juge de la Cour internationale de justice que le Chagossien devrait pouvoir rentrer chez eux, et ce qu'en fait c'est les Anglais. Et en même temps, je peux vous dire que les Anglais, le gouvernement britannique est raciste. Si vous prenez l'exemple de Malouine, des gens de Malouine, le traitement qu'ils ont eu, si vous prenez le cas des Pitcairn, là où il y a un volcan, ce traitement que ces gens ont eu, et comparé aux Chagossiens, c'est vraiment différent. C'est
vous pensez que Londres a cette attitude parce que vous êtes descendant d'esclaves?
Ben absolument, absolument. Nous n'avons pas les yeux bleus et la peau blanche. Si nous étions blancs, ok, ce ne sera aucun problème, et c'est pour cette raison. Et laisse-moi vous dire que depuis 2016, en nous bafouant, il y avait même une étude de faisabilité qui a été commanditée par la Grande-Bretagne pour essayer de voir si l'île est vivable. Le consultant KPMG a déclaré qu'il n'y a aucun barrière légale qui empêche les Chagossiens de retourner. Parce qu'il y a la cohabitation, il y a l'existence à Diego Garcia, et il faut donner la chance au Chagossien.
Mais les Britanniques ont aussi fait valoir que l'archipel des Chagos est déclaré zone marine protégée.
Oui, et tout ça, ce sont des prétextes, vous voyez. Nous, on n'est pas contre la protection de l'environnement, mais c'est qu'on dit que la protection de l'environnement doit se faire avec des gens locaux, avec des gens, pourquoi pas les Chagossiens, vous voyez. Comment pourrons-nous dire que l'île, c'est le plus grand parc marin du monde, et en oubliant qu'il y a, dans la plus grande, il y a la base militaire américaine. Comment dire ça? Vous voyez, il y a cette possibilité que les Chagossiens pourront, nous, on est d'accord à la protection, mais il ne faut pas bafouer nos droits fondamentaux en tant qu'un être humain.
Et la fin du bail, je crois, intervient en 2036. Ce bail a été renouvelé en 2016 par le Royaume-Uni aux États-Unis. Qu'est-ce que vous espérez, Monsieur Bankoult? Est-ce que vous pensez peut-être qu'à l'issue de cette année, il y aura un changement de position de la part de Londres?
Les Chagossiens sont prêts. Nous nous préparons à retourner chez nous. Nous allons voir.
Avec ou sans l'accord du Royaume-Uni?
Non, pas avec les accords, parce qu'ils ne vont pas nous laisser nous rentrer. Nous, on va aller acheter l'opinion internationale. On va avoir une couverture médiatique. On va mobiliser les gens. On va retourner chez nous avec notre adolescence. On va voir qui va nous empêcher d'entrer. Et c'est ça le but. On attend la fin du confinement. On attend ça le moment.
Donc, vous envisagez d'aller à la confrontation face à l'attitude de la Grande-Bretagne?
Absolument, parce que nous, on a basé notre combat sur le respect des en paix, on n'a rien en guerre. Vous voyez, nous, on voudrait comme si retourner. Qui peut nous empêcher d'entrer chez nous? On ne veut pas la guerre. On est cette militant du droit qui clame la paix. Vous voyez?
Merci.
C'est pour cette raison que nous voulons retourner et en même temps rendre hommage à nos parents qui se sont enterrés. Comment pouvons-nous accepter que les tombes de nos parents sont laissées dans l'état à abandon et que les tombes des chiens militaires sont très entretenues? C'est pour cette raison que nous voulons. Là et en même temps, nos enfants qui sont nés à Maurice ou ailleurs, ils ont le droit de voir, de trouver là où ils sont nés.
Merci.
Ses parents et ses grands-parents.
Merci beaucoup, Monsieur Olivier Bancoult. On voit que vous insistez sur votre droit à retourner sur vos terres et vous espérez que cela se fera. Merci donc à vous, Olivier Bancoult, président du groupe Réfugiés des Chagos. Vous étiez en ligne de Port-Louis, en Île-Maurice, d'avoir participé à ce débat. Merci à Caroline Laurent, écrivaine franco-mauricienne, auteure de Rivage de la colère qui raconte les souffrances du peuple chagossien, un livre qui a obtenu le prix Maison de la Presse 2020 et prix du roman Métis des lecteurs et des lycéens, que je vous recommande d'ailleurs vivement, chères auditrices et auditeurs. Merci à vous de nous avoir suivis et bientôt à retrouver en podcast sur notre site internet africaradio.com. Merci à Hugo Vallière et à Edouard Ning qui ont participé à la préparation de cette émission que j'ai eu le plaisir à nouveau de vous présenter. Bonsoir.